Bonjour à tous, c'est encore moi, Baptiste. Et pour ce numéro de notre grand direct d'anniversaire, je ne serai malheureusement pas accompagné de mon collègue Léo. Sachez qu'il vous fait coucou. Mais j'ai l'immense plaisir d'accueillir Clément, qui a arrêté la biologie en première. Bonjour Clément. Alors, tu te sens comment? Prêt à remettre la main à la pâte?
Et je vais même mettre les deux mains aujourd'hui, Baptiste, s'il le faut. Bonjour à tous.
Alors, le thème du jour de Biologica Radiophonicus, Biorad pour les intimes, repousse les frontières du monde du vivant. Vous savez que dans cette émission, on essaye de vous surprendre et de vous prouver encore et encore que la vie, c'est pas aussi simple qu'on le croit. Dans le numéro de ce direct, je vais vous montrer que la vie a réussi à s'adapter à de très nombreux environnements terrestres extrêmes, et pour cela, des stratégies très ingénieuses ont été employées. Attention par contre, les animaux n'ont pas conscience de développer de stratégies. Ce sont ceux qui réussissent par chance à survivre, qui ont légué cette résistance à leurs descendants, et ainsi de suite. Et aujourd'hui, notre programme est chargé puisque la Terre est vaste. On commence sans plus tarder par le froid, histoire de briser la glace, Clément.
Je n'approuve pas cette blague, Baptiste, elle jette un froid.
Merci Clément. Alors Clément, à ton avis, où est-ce qu'il fait le plus froid sur Terre?
Ben, dans les montagnes et au pôle.
Exactement.
Oui.
Oui, tu es si fort. Par exemple, hier, pendant que j'écrivais le numéro, il faisait moins 24 degrés au pôle Nord et la température ressentie était de moins 38 degrés. Le temps idéal pour faire un petit barbecue entre amis. Attention Clément, je vais te demander un effort de réflexion intense et tu vas essayer d'associer une couleur au pôle.
Blanc.
Oui. Du coup, la plupart des animaux des pôles sont blancs, notamment pour se camoufler et ne pas attirer l'attention des prédateurs. D'ailleurs, quand je parle de prédateurs, je pense entre autres au plus grand animal carnivore terrestre. Je veux bien sûr parler de l'ours blanc. Attention Clément, nouvelle question, de quelle couleur est le poil d'un ours blanc?
Stéphanie de Monaco.
Joli joker.
Blanc?
Non, même pas. Le poil d'un ours blanc, il est transparent. Et en fait, c'est sa peau qui est blanche. Les scientifiques... Oui, tu es déçu.
Très.
Les scientifiques pensent que ce poil transparent sert un peu comme une fibre optique et qu'il va canaliser les rayons lumineux vers l'animal pour le réchauffer. D'ailleurs, l'ours blanc est un mammifère. Il est donc homéotherme, c'est-à-dire qu'il maintient sa température interne à un niveau précis. Et un des meilleurs moyens pour garder cette boule de poil kawaii au chaud, c'est de diminuer sa surface par la règle de Allen.
Parce qu'il y a des règles en biologie maintenant.
Oui. En fait, c'est plus comme un pattern, un schéma qu'on a observé dans de nombreuses espèces et qui respecte des principes physiques. Et justement, cette règle de Allen stipule que les animaux vivant dans des endroits froids vont limiter la surface au froid, pour le même volume. Ainsi, l'ours blanc n'a pas de grandes oreilles ni une grande queue qui serait contre-productif pour lutter contre le froid.
Et ça marche aussi pour les humains, Baptiste.
Oui, enfin on le pense.
On pense, c'est bon à savoir.
En fait, j'ai essayé de faire mes recherches moi-même sur Wikipédia, puisque la taille moyenne des Esquimaux est d'environ 1m58, tandis que l'on retrouve des tailles beaucoup plus élevées en allant par exemple avec les Maasai d'Afrique.
D'accord.
Une autre méthode employée par ces animaux pour éviter de perdre la chaleur corporelle, qui est nécessaire au bon déroulé de leur métabolisme, c'est la vasoconstriction des vaisseaux cutanés.
Alors, ok, attends, on fait une pause. La vasoconstriction, c'est quoi? C'est quand on contracte les veines? Du coup, ça empêche le sang chaud de passer trop près de l'épiderme et donc de se refroidir. T'as vu comme j'ai révisé?
Mais oui, tellement. Et il y a aussi l'échange de chaleur à contre-courant. Alors, qu'est-ce que je... Ah oui, voilà. Tu es si fort, Clément.
Tu vas me faire rougir, Baptiste, mais c'est gentil. Mais en fait, j'ai pas trop compris le coup des échanges à contre-courant.
Alors, je vais essayer de faire mon prof, même si je suis pas très bon. Imagine que tu veux alimenter ton pied en sang. Du coup, tu vas avoir du sang assez chaud qui va partir de ton corps, de ton cœur plutôt, jusqu'à ton pied dans une artère. Il va passer dans le pied, délivrer l'oxygène et les nutriments, tout ça, et en revenir refroidi dans une veine qui retourne au cœur. Le principe, c'est de placer cette veine et cette artère côte à côte afin que le sang chaud de l'artère réchauffe le sang froid de la veine.
Tu es très bon prof, Baptiste, j'ai tout compris.
Oh, merci Clément. Passons à nos amis les manchots si tu le veux bien.
Avec plaisir. Mais attends, C'est pas blanc un manchot.
Oui, non. En effet, ils ont plutôt le dos noir. Je pense que tu le sais, mais le noir retient beaucoup mieux la chaleur que le blanc, car il absorbe tout le spectre lumineux, tandis que le blanc les renvoie. Ainsi, le manchot va plutôt exploiter au maximum la chaleur du soleil. Ensuite, il utilise plusieurs couches de plumes afin de garder un stock d'air entre sa peau et le milieu extérieur. C'est un peu comme le principe du double vitrage, si tu veux. Il isole sa peau du foie. Oui. La nature, elle est très bien faite. De plus, les plumes ne contiennent pas de vaisseaux sanguins, du coup, c'est tout bénef pour lui.
Et aussi, ça je sais, ils se rassemblent en groupe pour se tenir chaud et couver leurs œufs de manière collective.
Oui. Et pour le petit détail compliqué, les membranes des cellules des pattes des oiseaux qui vivent dans le grand froid contiennent plus d'acides gras insaturés. Cela leur permet de conserver leur fluidité et de ne pas figer comme une motte de beurre au frigo. Car oui, Clément, ce qui entoure les cellules, c'est majoritairement du gras.
Ça, j'avais remarqué, oui, depuis le début de l'année, mes cellules ont grossi, en fait, donc voilà.
D'accord. Mais d'ailleurs, le gras, parlons-en, c'est bien le gras. Le gras, tout comme l'air dont j'ai parlé tout à l'heure, il a des capacités isolantes. Ainsi, la plupart des animaux des poules, non mais n'importe quoi, dont j'ai parlé tout à l'heure...
Les animaux d'épaule, oui.
Ils ont une espèce couche de gras au niveau de leur épiderme et cela leur permet de conserver leur chaleur corporelle. Tout est bon pour éviter de geler. On retrouve d'ailleurs certains poissons et grenouilles qui utilisent des méthodes dites d'antigel. Pour cela, ils concentrent leur fluide corporel en sucre comme du glucose ou du glycérol et cela leur permet d'éviter à ces fluides de geler. Et ils peuvent avoir une température interne qui peut descendre jusqu'à 10 degrés pendant 4 jours sans geler.
Eh ben moi, je ne suis pas très adapté au froid. Pour éviter de geler, je reste sous ma couette en général. Hein.
Mais c'est une possibilité, tu sais, l'hibernation. On met son métabolisme au ralenti pour passer la mauvaise saison. D'ailleurs, certains animaux, comme la chenille du Bombyx du Groenland, se laissent tout simplement congeler après déshydratation et leur métabolisme s'arrête.
Ça me fait penser à ces gens qui, après leur mort, se mettent de l'antigel dans les veines et se laissent congeler dans des grandes cuves.
Oui, c'est un peu le même principe. On va revenir à la chaleur si tu le veux bien. J'ai l'impression qu'il fait froid dans le studio à force de parler de ça.
Tu veux que je fasse monter la température ?
Non, non, ça ira, merci. Rabeille-toi, Clément. Je pensais plutôt de parler des animaux des déserts chauds comme le Sahara.
Ah, d'accord, oui, aussi.
Bien, question couleur. C'est de quelle couleur le désert ?
Je sais pas, jaune, rouge ?
Oui, bonne réponse. Ces couleurs sont donc adoptées pour se fondre, et adaptées comme tu veux, pour se fondre dans le paysage. Mais toutes les couleurs claires et surtout le blanc sont également employées dans le désert, car contrairement au noir dont on a parlé tout à l'heure, le blanc renvoie les rayons lumineux. Cela évite donc de se chauffer inutilement.
D'accord, ok.
Bien, si tu veux, on va commencer par le dromadaire, parce que c'est un animal qui transpire le swag à plusieurs kilomètres. Enfin, c'est une métaphore, hein, parce que le dromadaire, il transpire pas beaucoup, afin d'éviter les pertes d'eau. D'ailleurs, l'eau, c'est la vie.
C'est l'histoire de la vie.
Merci Clément, tu devrais faire The Voice, je pense.
Oh, le oui, principe c'est mon rêve.
Le principe dans le désert, c'est justement de ne pas perdre trop d'eau. Et pour cela, tous les moyens sont bons et le dromadaire est justement un très bon exemple. Je pense notamment à ses narines qui possèdent un clapet afin de conserver l'atmosphère humide de ses sinus. D'ailleurs, ces sinus sont de forme assez complexe, ce qui permet de retenir l'eau de l'air sortant de ses poumons. Une autre façon de ne pas perdre de l'eau, c'est de ne pas faire pipi. Et pour cela, les dromadaires ont une urine très concentrée. Du coup, ils font pipi, mais pas beaucoup.
Ah, c'est du propre.
Un peu d'entrain, s'il te plaît,
d'accord,
Clément.
D'accord, pardon. D'ailleurs, tant qu'on est sur le dromadaire, tu sais qu'il y a une seule bosse par rapport au chameau qui en a deux ?
Oui, ben, tu sais que l'embryon du dromadaire, il a deux bosses ?
Un.
Ah, je t'ai cassé.
Ok,
j'ai honte de cette
comme
blague,
ça.
Mais je t'ai cassé. D'ailleurs, Clément, tu sais ce qu'il y a dans ces bosses ?
Bah, de l'eau ?
Non, enfin, oui, mais enfin, non. En fait, c'est du gras. Encore le gras. Ou de la graisse, si tu préfères. Déjà, cela permet d'avoir une couche de graisse, d'éviter d'avoir une couche de graisse disséminée dans tout le corps, comme les animaux du pôle. Et en plus, ce gras a un rôle super utile. En fait, par des réactions métaboliques, cette graisse peut se transformer en eau.
Mais c'est super utile, Baptiste. En fait, Quasimodo, c'est un beau gosse en puissance quand on y pense.
Ben oui, si on veut. Autre dernier détail sympa sur le dromadaire, c'est un animal qui est capable de faire varier sa température corporelle de 34 à 42 degrés. Voilà.
Mais Baptiste, c'est quoi ce bruit ?
Chut, Clément, c'est un fennec. Oui, j'ai un Oscar pour mes talents de comédien. Ne parle pas trop fort. Ses très grandes oreilles lui permettent d'entendre tous les bruits du désert. Et ce n'est pas tout. Elles lui servent aussi à dissiper sa chaleur corporelle, comme je te l'ai expliqué tout à l'heure avec la règle de Allen. Grande surface égale grande possibilité d'échanger avec le milieu extérieur.
Cette émission est si bien pensée, Baptiste. Quel merveilleux pédagogue tu fais. Tu devrais passer l'agrégation et le master fait ADEP.
Oh, tu sais, je pense que c'est mieux que je fasse autre chose dans ma vie. On finit avec les animaux du désert avec mon amie la gerboise.
Tu veux dire la gerbille ?
Non, gerboise. La gerbille est un rongeur qui ressemble un peu à un rat ou à un hamster et qui est originaire d'Asie. La gerboise, en revanche, vient d'Afrique et elle est de couleur sable et ressemble un peu à un rat kangourou. Tu regarderas sur internet. On dit comme ça, c'est un peu moche, un rat kangourou, mais en fait, c'est vraiment super mignon et c'est l'animal qui a inspiré Diddle.
Oh.
Hashtag les vrais savent.
Oui.
Bref, ce que je voulais dire, c'est que la gerboise ne boit pas.
Elle fait des économies de tickets en festive, au moins.
Oui, surtout que je pense qu'elle n'est pas adhérente BDE.
Ah oui, c'est un problème.
En fait, elle récupère toute l'eau qui lui est nécessaire dans la nourriture. Du coup, pas besoin de boire. On enchaîne tout de suite avec les extrémophiles. Comme je suis pas super bon en définition, je vais citer ma source Wikipédia. Un organisme est dit extrémophile lorsque ses conditions de vie normales sont mortelles pour la plupart des autres êtres vivants. Et c'est parti pour trouve ce que veut dire ce mot avec Clément. Premier mot, hyperthermophile.
Un animal très chaud.
Oui, un animal qui vit à des températures proches ou supérieures à 100 degrés. Psychrophile.
Psychoquac ?
Non, Clément, on avait dit qu'on ferait une émission sans couac, s'il te plaît.
Ah, pardon.
C'était un organisme qui aimait le froid. Mais il y a un peu du tien. Allophile.
Non mais allô quoi ? T'es extrémophile et t'as pas de shampoing. Allô ?
Presque. J'ai honte de toi, Clément. Ça voulait dire qu'il aime le sel, mais j'apprécie la référence à Nabila. Bon, voilà. En gros, les familles essentielles, mais on a aussi ceux qui vivent dans des milieux très acides, au contraire très basiques. Petit rappel, quand le pH est bas, c'est acide, et quand il est haut, c'est basique.
Non mais c'est la base, quoi. Allô ?
Exactement. Bon, commençons par le commencement. On a trouvé des bactéries vivant dans le parc de Yellowstone, aux États-Unis. Elles vivent dans des sources d'eau chaude allant de 50 à 80 degrés. Je vous parle de cette bactérie car on en a extrait une protéine qui est aujourd'hui utilisée des centaines de fois tous les jours dans des milliers de laboratoires. La PCR.
La patrie des chatons ronronnants ?
Pas loin. La polymérase chain reaction.
Ah oui, effectivement, pas loin.
Oui, bah, on aurait pu faire ça aussi. On se sert du fait que la protéine fonctionne à haute température pour réaliser des copies d'ADN rapides in vitro. Cela a valu le prix Nobel de chimie de 1993 à Karim Ulis, même s'il est assez controversé. Toujours dans la catégorie des organismes qui aiment le chaud, on a retrouvé une archée qui vivait à plus de 120 degrés.
Une archée ? C'est quoi une archée, Baptiste ?
En fait, rapidement, c'est un des trois grands ordres du vivant. En gros, il y a les eucaryotes comme nous, qui ont des cellules avec des noyaux, puis les archées et les bactéries qui ont des différences plus subtiles. Par exemple, les mécanismes cellulaires des archées combinent souvent des processus vus chez les eucaryotes et les eubactéries. Bref, eux, ça veut dire vrai d'ailleurs. T'as vu, je parle grec.
C'est pas tout à fait ça, mais c'est pas grave, Baptiste.
Oh, les profs nous ont menti.
Ils vous ont menti.
Les archées sont souvent extrémophiles. Par exemple, on retrouve des archées dans la mer morte, qui est un environnement extrêmement salé. Elles sont dites allophiles, du coup.
D'accord, c'est donc ça.
Mais on en retrouve également dans notre flore intestinale.
Ah.
Concernant les êtres vivants existant dans le froid, on a retrouvé en 2013 des bactéries qui vivaient à 800 mètres de profondeur sous la glace de l'Antarctique. On retrouve également souvent des bactéries dans les mines, évoluant à plusieurs kilomètres de profondeur, sans lumière et parfois sans oxygène. Pour survivre, ces organismes ont développé des métabolismes parfois alternatifs, adaptés à ces conditions extrêmes. Clément, est-ce que tu connais les fumeurs noirs ?
Est-ce que c'est une question raciste ?
Non, pas du tout.
Je passe.
D'accord. En fait, au niveau des dorsales, il y a des chaînes de volcans sous-marins. Enfin, les dorsales sont des chaînes de volcans sous-marins. Il y a des filets d'eau qui s'infiltrent dans le sol et qui se réchauffent près du magma à 1900 degrés. 1200, j'ai dit 1900, désolé. Ce réchauffement brutal augmente le pouvoir de solubilisation de l'eau, un peu comme le sel dans votre casserole. Enfin, si vous faites comme moi et que vous mettez toujours trop de sel au début, après quand on chauffe, il disparaît. Enfin bref. L'eau se charge d'un minéraux des roches environnantes et s'acidifie. Elle ressort du sol au niveau de ce qu'on appelle justement les fumeurs noirs.
Mmh.
Ou fumeurs blancs, d'avis, je ne suis pas raciste, si le fluide est moins chaud et sans particules. La rencontre avec l'eau de mer froide provoque la formation d'une cheminée sous-marine. On assiste alors au développement d'une faune composée entre autres de bactéries extrémophiles, mais également d'une faune et d'une flore endémiques. Tout le monde se rappelle de ce que veut dire endémique, n'est-ce pas Clément ?
Oui, c'est une espèce qui vit que dans un seul endroit.
Oh ! Merci Clément. J'aime bien l'image d'un lampadaire perdu dans la nuit noire pour comprendre l'effet d'un fumeur noir au fond de l'océan. T'as vu, je suis poétique.
C'est beau, Baptiste, c'est beau.
C'est un endroit où la biodiversité est extrêmement riche et elle est entourée de grands déserts. D'ailleurs, pour augmenter leur aire de colonisation, les organismes vivant dans cette oasis sous-marin peuvent utiliser des cadavres de baleines, pardon, pour aller d'un endroit à un autre. C'est un peu comme un point relais.
Et c'est pas tout à fait le même genre de point relais où je vais chercher mes colis. Hein.
Oui, c'est un peu même morbide.
Oui. T'as pas quelque chose de plus joyeux en réserve, Baptiste ?
Si tu veux, j'ai les bactéries qui posent des problèmes parce qu'elles résistent aux radiations nucléaires.
Ah oui.
Parce que du coup, on a peur qu'elles interfèrent avec les joints qui isolent les déchets nucléaires, c'est sympa.
Je disais joyeux, Baptiste.
Mais c'est joyeux, non ? C'est la vie, c'est beau, ça résiste à tout. D'ailleurs, de nombreuses expériences prouvent que les bactéries peuvent résister au vide de l'espace ou encore à l'absence de gravité. Ça embête un peu les gens de la NASA parce qu'ils ont peur d'introduire des bactéries terrestres sur Mars. Ce serait un peu ballot. Imagine qu'on trouve une trace de vie sur Mars, mais que sans faire exprès, on contamine la zone et que la vie extraterrestre soit remplacée par des bactéries de chez nous.
Oh, mais ce serait vachement triste, en effet.
Oui. Du coup, il y a des protocoles de stérilisation intense qui sont mis en place, même si les chercheurs pensent que les bactéries ne pourraient pas vraiment se développer à la surface de Mars par manque d'eau liquide et parce que la planète est vraiment froide et soumise aux UV.
Hashtag pray for les martiens.
Oui. Juste en passant, sur Terre, on a quand même les tardigrades, qui sont de jolis petits animaux d'environ 1 mm qui survivent dans le vide spatial, qui peuvent encaisser 1000 fois plus de rayonnement que nous. Ils peuvent se congeler et vivre sans eau pendant plusieurs années. Ils résistent à moins de 0 degré et on peut les réchauffer à plus de 100 degrés pendant quelques minutes et ils ne ressentent pas les produits toxiques. La page Wikipédia prédit quand même qu'on peut les tuer en les écrasant. Ouf.
Splotch. Et alors Baptiste, pour nous, les êtres humains, ça se passe comment ?
Ben, c'est un peu plus compliqué. Par exemple, nous, si notre température tombe en dessous de 30 degrés, on est mort.
Oui.
Mais l'homme a quand même inventé les vêtements pour mieux résister, du coup c'est mieux. Ouf. Et comme je le disais tout à l'heure, on a également les systèmes de vasoconstriction cutanée qui sont mis en place.
Ah oui, quand on limitait le sang qui allait à la peau, c'est ça ?
Oui, exactement Clément. On a aussi nos mitochondries, les usines à énergie de la cellule, qui peuvent produire de la chaleur et ça nous sert à nous réchauffer, écoute Clément. La nature est bien faite quand même.
Ah oui, la nature est bien faite.
Oui, mais après la nature, elle n'est pas super bien faite. Par exemple, on a la chair de poule, qui au départ servait à créer une couche d'air isolante, mais qui maintenant ne sert vraiment plus à grand chose, puisque comme tu le sais, enfin malheureusement, l'homme n'a plus beaucoup de poils.
Effectivement. Et pour le chaud, Baptiste, ça se passe comment ?
Alors, le corps peut supporter une température interne au-dessus de 40 degrés de manière transitoire et temporaire, mais c'est souvent l'organisme qui déclenche ce pic de chaleur. Attention, on peut utiliser la sueur pour se réchauffer, même si ce n'est pas toujours sexy, mais il ne faut pas faire sortir trop d'eau de l'organisme, puisque je vous rappelle que 72 heures sans eau vous mèneront au cimetière.
Oui, alors, mais justement, à propos de ça, pour la nourriture, c'est différent, non ? Parce que, si je me souviens bien, l'homme, avant de se sédentariser, oui, était un pisteur nomade qui pouvait marcher plusieurs jours sans se nourrir. Cette capacité à survivre quelques jours a été conservée, non ?
Oui, mais notre corps a aussi gardé le réflexe de garder des réserves pour se prévenir d'un passage à vide sans nourriture. C'est pourquoi il peut parfois être difficile de perdre certaines graisses de notre corps.
Donc en fait, ne faites pas de régime, c'est bien d'avoir un ventre un peu... Ne faites pas de régime, c'est bien d'avoir un ventre un peu rond.
Oui.
Parce que ça a du charme, c'est ça ?
Oui, évidemment. D'ailleurs, la graisse a sauvé la vie à de nombreuses populations. Par exemple, les Polynésiens qui sont arrivés en bateau, ils avaient besoin de graisse pour survivre à ces longs voyages. C'est en partie pour cela qu'on leur retrouve un fort taux d'obésité chez eux.
Et inversement, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, un tiers de la population mondiale ne mange pas à sa faim.
Oui. Sans manger, l'organisme va d'abord puiser son énergie dans les réserves de graisse restantes, puis dans les muscles. C'est une situation grave qui affaiblit les défenses immunitaires de l'organisme, ce qui le rend sujet à de nombreuses maladies. Et c'est la fin de ce numéro de Biologica Radiophonicus. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à vous renseigner sur tous ces êtres vivants exceptionnels dont nous avons parlé. J'étais ravie de partager ce Clément avec toi, numéro.
Moi aussi, Baptiste, j'ai été ravie de partager ce Clément avec toi.
Oh, partageons les Cléments ensemble. Et je vous dis à la prochaine. Bisous les chatons.